Bible dans le troisième chapitre de Colossiens. Je vais tenir une promesse, mais pas aujourd'hui. Je vous ai annoncé la semaine passée, après avoir passé quelques dimanches dans ce troisième chapitre de Colossiens, qu'on allait aborder la partie pratique, le comment de dépouiller et revêtir. Mais nous allons attendre pour la rentrée. Nous avons la scène aujourd'hui et j'ai pensé qu'il serait plus approprié d'aborder donc le prochain verset qui vient après cette section qui parle de la sanctification et dépouiller l'homme, le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Donc nous allons tout simplement nous pencher dans la présence du Seigneur sur le verset 15. Je vais lire un peu plus loin pour avoir le contexte. Donc, ayant parlé de la sanctification, l'apôtre sous l'inspiration de l'Esprit nous dit ceci. Et il le dit à nous, aussi bien qu'aux Colossiens. Verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Je vais le relire un peu plus exactement, selon la langue originelle. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle aussi vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, vous instruisant, vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous pouvez voir qu'à la fin de cette section, Dieu nous donne trois grandes consignes pour la vie chrétienne, nous qui nous sanctifions par sa grâce. D'abord, la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Et nous devons faire quelque chose à ce sujet. C'est impératif. Deuxièmement, la parole de Christ doit demeurer richement, ou dans toute sa richesse en nous, afin de nous transformer. Et troisièmement, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ, avec reconnaissance. Donc vous avez vu combien notre vie chrétienne est vraiment une vie, non pas de religion impersonnelle, mais de relation avec le Christ ressuscité. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, que la parole de Christ demeure en vous, et que vous fassiez tout dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons surtout penser à ce 15e verset aujourd'hui, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et il y a deux possibilités pour comprendre le sens de cela, et les commentateurs se divisent. Alors, certains pensent que la paix de Christ, c'est une réalité sociale. C'est-à-dire que la paix entre vous, des relations paisibles, des relations harmonieuse règne dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que la paix de Dieu n'est pas la paix entre nous et le Seigneur par Christ, mais la paix entre moi et mon frère ou ma sœur dans l'Église? C'est à cause de la suite du verset. Lisez avec moi. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Vous voyez, ce contexte du verset peut prêter à penser qu'il est en train de parler des relations horizontales, principalement. L'autre possibilité, et donc celle que je pense être juste, c'est que la paix de Christ, comme partout ailleurs dans le Nouveau Testament, est principalement et premièrement, mais pas uniquement, la paix entre vous et Dieu par Jésus-Christ. C'est cet état de paix, de tranquillité qui nous vient du fait d'être lavés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, dans un état perpétuel de réconciliation, d'acceptation auprès de Dieu et de justification, si vous voulez les termes théologiques. Que nous sommes en règle, que nous sommes, vous êtes acceptés, que vous êtes pardonnés, que Dieu vous dit « ne crains pas, vous êtes à moi, vous avez du prix à mes yeux ». Cette réalité, normalement, c'est le premier sens de la paix de Christ. Nous allons voir que cette réalité verticale produit effectivement une harmonie horizontale dans l'Église. Mais ça, c'est un effet. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, il faut le lire bien parce que les traducteurs n'ont pas traduit un mot. Ils ont mal mis l'ordre du verset. On doit vraiment lire que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle aussi, le « aussi » nous montre qu'il est en train de parler d'une réalité principale, et puis il se tourne vers une application secondaire. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, dans toutes les circonstances et toutes les occasions de la vie, à laquelle vous avez aussi été appelés dans les relations horizontales de l'Église. Je prends juste un autre moment pour confirmer ça, parce que vous ne devez pas me croire, et c'est très important le point, vous ne devez pas me croire sur ma parole. La Bible elle-même doit nous mener vers cette solution. Paul mentionne la paix deux fois avant ce texte dans l'épître, le premier, et dans le verset 2, « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Bon, ça c'est d'abord une paix verticale, une paix avec Dieu par Christ. Mais plus à propos est le verset 20. Je vais lire dans le chapitre 1, je vais lire le verset 19 pour avoir le contexte. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Christ, toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, verticalement, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc, au début de l'épître, la paix par lui, par Christ, ou la paix de Christ, est la paix par son sang. Réconcilié. Mise en règle avec Dieu. Et dans notre cœur, mise en tranquillité vis-à-vis de la présence de notre Dieu. Tournez avec moi juste une seconde à Éphésiens chapitre 2, parce que l'épître aux Éphésiens, vous le savez peut-être, c'est l'épître parallèle à l'épître aux Colossiens. Les deux sont extrêmement parallèles. Paul les a écrits au même moment. Et il suit dans beaucoup de parties un schéma plus ou moins similaire. Et dans le chapitre 2, Paul va parler de la paix de Christ. Et vous allez voir que là, on a aussi les deux éléments, comme dans Colossiens 3:15, l'élément principal de paix avec Dieu par Christ et qui produit aussi une paix entre chrétiens. Donc, nous allons lire au verset 11 et suivant. Souvenez-vous, il parle aux non-juifs qui sont chrétiens à Éphèse, autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qu'ils sont dans la chair et par la main des uns, vous étiez en ce temps-là, avant la conversion, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin de Dieu, et loin du peuple de Dieu, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, c'est lui notre paix. Christ, notre paix, la paix de Christ. Lui qui des deux peuples, juifs et païens, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle, un évangile, la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, et il va définir quelle paix, de quel pays s'agit, paix à vous qui êtes loin, paix à vous qui êtes proches, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Donc vous voyez que nous avons des deux choses, paix entre juifs et païens dans l'Église, mais à cause d'une paix plus primordiale, plus fondateur, qui va plus à la racine de votre existence, de qui vous êtes, et ça c'est la paix que vous avez avec Dieu, cet état de paix entre vous et Dieu par Jésus-Christ et son sang. Ok, donc nous acceptons que c'est cela que Paul veut dire. Maintenant, il faut que nous comprenions comment ça nous touche dans la vie chrétienne. Alors, que la paix de Christ règne dans ton cœur. Le mot que Paul utilise, qui traduit « régner », c'est un verbe qui est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament, ici, et qui signifie littéralement « arbitrer », comme un arbitre de sport. Ok ? Maintenant, quand vous allez sur le terrain, et il y a un différent, la balle était dehors. Non, elle n'était pas dehors. Il m'a fait faute. Non, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'arbitre qui parle et qui dit ce qu'il en est et il règne. Il établit la paix, d'accord, par son arbitration. Et c'est ce mot que Paul utilise, que la paix de Christ arbitre dans ton cœur, constamment dans ta vie. Que ça veut dire quelque chose comme ceci. Si, chers amis, le Dieu de l'univers est devenu le Dieu de paix en règle avec vous par Jésus-Christ, le Dieu de l'univers pour toujours en paix avec vous, ça veut dire que cette réalité est tellement grandiose et tellement importante que tout ce qui peut arriver dans ta vie ailleurs est une chose très petite. Et il faut que la réalité qui domine ta vie et qui détermine ton attitude, ta disposition, est-ce que tu es paniqué, peureux, inquiète, fâché, la réalité qui règne et qui détermine ta disposition chrétienne de jour en jour, c'est que la chose de loin principale, ta relation avec Dieu, est réglée, complètement réglée. Et cela imprègne tout ton cœur, ton attitude. Et lorsque quelque chose de troublant arrive, cette chose ne peut pas régner. Cette chose qui ne peut pas dominer ton existence. Tu as fait échec dans tes examens, tu as perdu ton travail, tu es tombé gravement malade. Mais la paix de Christ, cette réalité de la paix avec le Dieu éternel qui va te ramener vers lui est tellement grandiose et tellement parlant dans ton cœur. Paix, paix, je suis en paix, je suis pour toi, je suis avec toi. Que ça règne au-dessus d'autres choses, d'autres problèmes qui peuvent arriver dans votre vie. Et vous pouvez voir à quel point c'est tellement pratique, c'est tellement évangile. Nous pouvons le comprendre si nous tournons rapidement à Romains 5. Je vais juste vous lire un petit passage dans Romains 5 et puis Romains 8, et puis on va avancer. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés, ça veut dire mis en règle avec Dieu par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » C'est un truc pour toujours. « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance une fidélité éprouvée, ainsi de suite. Vous voyez, ici, la paix, nous avons la paix avec Dieu et ça veut dire que d'autres réalités, comme les tribulations, ne peuvent pas être dominantes. Vous vivez dans un milieu difficile. Mais si Dieu vous aime, s'il vous accepte, s'il est pour vous, c'est tellement grand que d'autres réalités doivent se mettre à genoux, doivent se plier dans votre cœur. Regardez maintenant le chapitre 8. Et je lis à partir du verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Ceux que Dieu a aimés et choisis pour le pardon et le salut. Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui donne le verdict final. Il est l'arbitre. Vous voyez, nous sommes dans le même registre. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Et à la fin, il dit qu'il est persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni rien dans l'existence ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Je veux prendre juste un moment pour parler de notre Seigneur, parce que rappelez-vous que le Seigneur a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » N'est-ce pas? Quelle paix? Jésus était lui-même, par sa propre justice, l'homme par excellence, l'homme en paix avec Dieu. À son baptême, du ciel, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mets toute ma faveur. Et le Christ, il vit ses 33 ans dans cette paix de savoir que lui et le Père sont complètement en harmonie. Lorsque l'orage vient et les disciples sont paniqués dans le bateau, Jésus est endormi. Il est l'homme en paix par excellence. Il sait que celui qui détient les reins de l'univers et de tout ce qui arrive, c'est celui qui lui dit « Je suis pour toi plus que pour toute autre chose. » Et donc, il vit dans cette paix. Et quand il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », il est en train de dire, chers amis, que par mon salut, je vous amène dans la même position que j'ai vis-à-vis du Père. Le Père sera pour vous, par grâce, comme il a été pour moi, en tant qu'homme, par mon mérite. Et vous allez jouir de cette de cette relation apaisante du Dieu qui est pour vous. Maintenant, la paix de Dieu doit régner dans vos cœurs, dans mon cœur, par-dessus beaucoup de choses qui sont anti-paix. N'est-ce pas? Il y a des choses, des facteurs de trouble, d'inquiétude, de chaos dans nos vies, et ça vient de différentes sources. Et maintenant, nous devons nous tester vraiment pour voir si nous commençons un tout petit peu à comprendre comment laisser régner la paix de Christ dans nos cœurs. Je vous donne un ou deux exemples. D'abord, dans le chapitre 2 de Colossiens, le verset 18, nous avons besoin de regarder ce verset. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Paul utilise un mot qui figure une seule fois dans le Nouveau Testament, qui signifie « arbitrer ». Mais dans le verset 18 du chapitre 2, il y a un mot qui est un cousin, parce que c'est le même verbe, mais pas vraiment, parce qu'il a un préfixe « kata » avant le verbe. Et donc, c'est un verbe qui est un peu dans le même registre. Et il utilise Une seule fois dans le Nouveau Testament, il apparaît dans le chapitre 2 et le verset 18. Que personne sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Ça, c'est vraiment une traduction très lourde et très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça peut bien... On va dire comme ceci. Que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous disqualifie. Les faux enseignants qui sont venus dans cette église disaient « Vous avez Christ pour le salut initial, c'est bien, mais vous avez besoin de Christ plus autre chose que nous pouvons vous montrer pour arriver à la plénitude. » Et donc, si vous ne nous écoutez pas, vous êtes disqualifiés. Quelque chose ne va pas entre vous et Dieu parce que vous n'allez pas jusqu'au bout. Et donc parfois, c'est le problème. Il y a des faux enseignants qui viennent, qui sèment la pagaille dans nos églises, et presque toujours, il y a une division qui se crée, parce que leur enseignement met quelque chose à la place de Christ et la paix qu'il installe entre nous et Dieu. Quelque chose de figure trop grand maintenant, ou bien un système de mérite, où est ce que Christ a fait maintenant ne suffit pas. Et on est parti. Donc ça, c'est la première chose que nous devons dire. Sans doute, Paul est en train de faire un clin d'œil. Les faux enseignants veulent vous disqualifier en tant qu'arbitre en disant vous avez besoin de Christ plus. Mais moi, je vous dis, Christ et la paix entière et complète qu'il inaugure entre vous et Dieu doit être le seul arbitre dans votre cœur. Et il ne vous disqualifie pas. Il dit, vous êtes maintenant qualifié pour les cieux. Deuxièmement, il y a parfois des attaques directes de Satan. Vous avez vécu cela? Que vous vous sentez tellement coupable dans votre lutte contre le péché, et on ne peut pas dire que la paix règne dans vos cœurs. On doit dire plutôt que la culpabilité règne. Et la voix de Satan lui-même se fait entendre, même si vous ne savez pas que c'est lui. Il est l'accusateur des frères, et il vous dit « Vous êtes indigne, Dieu ne peut pas avoir affaire avec vous. » Il me fit voir, dit Zacharie, le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Josué, le sacrificateur, représente tout le peuple de Dieu, vous. Et donc, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? en parlant de Josué et du peuple de Dieu et de vous. Vous êtes un tison arraché du feu. Josué était couvert de vêtements sales et se tenant debout devant l'ange. C'est pour ça que Satan nous accuse. Nous aussi, nous salissons, n'est-ce pas, dans notre vie parfois. Et Satan sait que c'est son occasion préférée. Parce que s'il peut faire en sorte que la paix de Christ, la paix entre Dieu et vous, ne règne plus, que ses accusations règnent, il installe la distance entre toi et Dieu. Tu te caches comme Adam et Ève, tu as peur que Dieu vienne par là, et au lieu de courir à Dieu avec tes péchés pour confesser, pour être pardonné, pour se repentir, tu fuis de lui. Pourquoi? Parce que tu perds de vue la paix que Christ établit. Josué était couvert de vêtements sales, se tenait devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » C'est ça le procédé de Dieu envers vous. Repentez-vous de vos péchés, mais repentez-vous devant le Dieu qui est en paix avec vous, même quand vous étiez en train de pécher. Je n'ai pas dit qu'il aimait votre péché, mais j'ai dit qu'il était... Vous ne détruisez pas le salut chaque fois que vous péchez, chers amis. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes bien aimé, et comme j'aime mon enfant lorsqu'il fait des bêtises, Dieu vous aime, il vous aime assez pour vous châtier et vous amener à la repentance et vous pardonner. Tout ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, la paix de Christ doit régner au-dessus de la voix de l'accusateur. Il y a aussi... parfois, dans ton cœur, non pas la paix de Christ qui règne, mais l'inquiétude et l'angoisse à cause de situations troublantes. Au travail, dans la santé, dans les finances, etc. Quelque chose qui va vraiment mal, qui arrive. Et maintenant, la voix qui domine dans ta disposition pendant 3 mois, c'est une voix troublante. C'est une voix chaotique. C'est une voix stressante, je sais parce que je le vis, n'est-ce pas? Et notre attitude peut être sous la coupe, vraiment, de ces voix qui viennent de ces mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Et Paul dit non, et Dieu vous dit non par ce verset, que la paix de Christ arbitre. Cette tribulation vous dit, mais Dieu n'est pas avec toi. Tout va péter, excusez-moi. Et la paix de Christ en tant qu'arbitre dit non, tout est bien. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, il ne te consumera pas. La paix. Je t'annonce la paix, Dieu est pour toi au milieu de cette chose. Et cette voix, cette paix de Christ doit dominer. Ensuite, et dernier exemple, et je vais terminer. Parfois, le trouble dans le cœur qui domine ne vient pas de tout cela, mais vient de moi-même. Ou de vous-même, et malheureusement, de la justice propre. Je vous explique. Jésus se rend chez Marthe et Marie, et bien sûr, le Seigneur est là, il faut faire un bon repas. Et les deux sœurs se mettent à préparer le repas, et Jésus est dans la pièce, enfin le salon, en enseignant ceux qui sont présents. Une fois que le repas est suffisamment bien, pas parfait, mais bien, Marie quitte Marthe. Il y a eu sans doute une discussion, mais ça suffit, Jésus est là, on est en train de manquer tout ce qu'il dit. Donc elle part. Et elle se met aux pieds de Jésus. À un moment donné, Marthe vient et le verbe que Luc utilise, c'est qu'elle fait irruption dans la pièce et elle reproche sa sœur, elle reproche le Fils de Dieu. Elle dit, Seigneur, tu te fais pas de soucis que ma sœur ne m'aide pas, dis-lui de m'aider. Elle commande Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui règne dans son cœur? Jésus dit, Marthe, Marthe, tu es troublée et affairée par beaucoup de choses. C'est-à-dire, cet événement n'est pas isolé. C'est un peu toi, ça. Tu es troublée et affairée par beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Pourquoi Marthe est-elle troublée ce jour-là? Parce que le repas doit être parfait. Pourquoi est-ce que ça s'est nécessité? Beaucoup de choses sont nécessaires pour elle. C'est la justice propre, n'est-ce pas? Parce que mon identité, je l'ai mise dans ma cuisine. Tout le monde me dit que je cuisine bien. Et maintenant, ça c'est ma fierté, c'est ma justice propre. Et maintenant, tout doit être parfait. Mais mon identité n'est pas dans ma cuisine. Il y a une autre voix qui me parle et qui me dit, Dieu lui-même t'accepte sans ta cuisine, dans ton péché, par Christ et son sang. Et Marthe oublie que la bénédiction suprême, c'est que Dieu m'aime parfaitement, qu'il m'accepte et que cela m'est donné par le sang de Christ. C'est fou comment les choses spirituelles peuvent affecter même la manière dont nous faisons la cuisine, n'est-ce pas? Et que nous pouvons pécher en faisant mal à la cuisine, parce que la paix de Christ, la paix avec un Dieu réconcilié par grâce, nous n'avons rien fait, que cette paix-là n'est pas en train de régner. Donc l'exhortation aujourd'hui à nous, c'est simplement de commencer à veiller sur notre cœur et nous poser cette question de jour en jour. Est-ce que la paix de Christ est en train de dominer toute autre réalité dans ma vie? Le fait que je sois réconcilié avec Dieu et aimé tel que je suis, est-ce que c'est tellement grand dans ses enjeux, dans ses implications pour moi, que ça domine et ça fait taire les autres voies qui essaient de dominer dans ma vie? Voilà une bonne manière de vivre. Voilà une manière profonde de vivre. Voilà un commandement impératif, que la paix de Christ règne et arbitre dans vos cœurs. Nous allons chanter ensemble pour préparer la scène, et nous allons chanter le chant qui se trouve vers la fin de votre carnet. Je ne pense pas qu'il ait un numéro, mais vers la fin, vous allez trouver un chant qui s'intitule « La puissance de la croix ».